Chapitre 4, 11e partie, vendredi 26 octobre. Parti presque en retard de mon palais du Nord, je me hâte vers le rendez-vous que Li Hung-Chang a bien voulu me donner pour 9h du matin. Un chasseur d'Afrique m'accompagne. Nous suivons un piqueur chinois envoyé pour nous conduire. Et c'est d'abord un temps de trot accéléré, sous le rayonnement blanc du soleil, à travers du silence et de la poussière, le long des grandes murailles muettes et des fossés en marécage du palais des empereurs. Ensuite, au sortir de la ville jaune, commence la vie et commence le bruit. Après cette magnifique solitude où l'on s'est déjà habitué à demeurer, chaque fois que l'on entre dans le Pékin de tout le monde, c'est presque une surprise de retrouver le grouillement de la Chine et ses humbles foules. On n'arrive pas à se figurer que ces bois, ces lacs, ces horizons qui jouent la vraie campagne sont choses factices, englobées de toutes parts dans la plus fourmillante des villes. Il est incontestable que les gens reviennent en masse à Pékin. Au dire de Monseigneur Favier, il y reviendrait surtout des boxers, sous tous les costumes et sous toutes les formes. D'un jour à l'autre, augmente le nombre des robes en soie, des robes en coton bleu, des yeux de travers et des queues. Il faut allonger le trot quand même, au milieu de tout ce monde, car nous sommes encore loin, paraît-il, et l'heure passe. Notre piqueur à présent semble galoper. Ce n'est plus lui que nous voyons, dans ces rues plus poudreuses encore que les chemins de la ville jaune. C'est seulement l'envolée de poussière noire dont il s'enveloppe avec son petit cheval mongol, et nous suivons ce nuage. Au bout d'une demi-heure de course rapide, dans une triste ruelle sans vue, devant une vieille maison délabrée, le nuage enfin s'arrête. Est-ce possible qu'il demeure là, ce Li Hung-Chang, riche comme Aladdin, possesseur de palais et de merveilles, qui fut un des favoris les plus durables de l'impératrice et une des gloires de la Chine? Pour je ne sais quelle raison, sans doute complexe, un poste de soldat cosaque garde cette entrée. Uniforme sordide et naïve, figure rose. La salle où l'on m'introduit, au fond d'une cour, est en décrépitude et en désarroi. Au milieu, une table et deux ou trois fauteuils d'ébène sculptés un peu finement, mais c'est tout. Dans les fonds, un chaos de malles, de valises, de paquets, de couvertures enroulées. On dirait les préparatifs d'une fuite. Le Chinois qui est venu me recevoir au seuil de la rue, en belle robe de soie prune, me fait asseoir et m'offre du thé. C'est l'interprète de Séan. Il parle français d'une façon correcte, même élégante. On est allé, me dit-il, m'annoncer à son Altesse. Sur un signe d'un autre Chinois, il m'emmène bientôt dans une seconde cour, et là m'apparaît, à la porte d'une salle de réception, un grand vieillard qui s'avance à ma rencontre. De droite et de gauche, il s'appuie sur les épaules de serviteurs en robe de soie qu'il dépasse de toute la tête. Il est colossal, les pommettes saillantes sous de petits yeux, de tout petits yeux vifs et scrutateurs. L'exagération du type mongol, avec une certaine beauté quand même, et l'air grand seigneur, bien que sa robe fourrée, de nuances indécises, laisse voir les taches et l'usure. On m'en avait prévenu d'ailleurs, son Altesse, en ses jours d'abomination, croit devoir affecter d'être pauvre. La grande salle décrépite où il me reçoit est comme la première, encombrée de malles et de paquets ficelés. Nous prenons place dans des fauteuils, l'un devant l'autre, une table entre nous deux, sur laquelle des serviteurs posent des cigarettes, du thé, du champagne. Et nous nous dévisageons d'abord comme deux êtres qu'un monde sépare. Après m'avoir demandé mon âge et le chiffre de mes revenus, ce qui est une formule de politesse chinoise, il salue de nouveau et la conversation commence. Quand nous avons fini de causer des questions brûlantes du jour, Li Hongshang s'apitoie sur la Chine, sur les ruines de Pékin. Ayant visité toute l'Europe, dit-il, j'ai vu les musées de toutes vos capitales. Pékin avait le sien aussi, car la ville jaune tout entière était un musée, commencé depuis des siècles, que l'on pouvait comparer au plus beau d'entre les vôtres. Et maintenant, il est détruit. Il m'interroge ensuite sur ce que nous faisons dans notre palais du Nord, s'informe, avec des ménagements aimables, si nous n'y commettons pas de dégâts. Ce que nous faisons, il le sait aussi bien que moi, ayant des espions partout, même parmi nos portefaix. Son énigmatique figure, cependant, simule une satisfaction quand je lui confirme que nous ne détruisons rien. L'audience finie, les poignées de main échangées, Li Hongshang, toujours appuyé sur les deux serviteurs qu'il domine de sa haute taille, vient me reconduire jusqu'au milieu de la cour. Et quand je me retourne sur le seuil pour lui adresser le salut final, il rappelle courtoisement à ma mémoire l'offre que je lui ai faite de lui envoyer le récit de mon voyage à Pékin, si jamais je trouve le temps de l'écrire. Malgré la grâce parfaite de l'accueil, due surtout à mon titre de mandarin de lettres, ce vieux prince des mille et une nuits chinoises, en habit râpé, dans un cadre de misère, n'a cessé de me paraître inquiétant, masqué, insaisissable et peut-être sourdement dédaigneux ou ironique. À travers 2 kilomètres de ruines et de décombres, je me dirige à présent vers le quartier des délégations européennes, afin de prendre congé de notre ministre de France, encore malade et alité, et de lui demander ses commissions pour l'amiral, car je dois, après-demain ou plus tard, quitter Pékin, m'en retourner à bord. Et cette visite terminée, au moment où je remonte à cheval pour entrer dans la ville jaune, quelqu'un de la légation vient très gentiment me donner une indication précise, tout à fait singulière, qui me permettra sans doute de dérober ce soir 2 petits souliers de l'impératrice de Chine et de les emporter comme part de pillage. En effet, dans une île ombreuse de la partie sud du lac des Lotus, est un frêle palais, presque caché, où la souveraine avait dormi sa dernière nuit d'angoisse avant sa fuite affolée en charrette comme une pauvresse. Or, la 2e chambre à gauche, au fond de la 2e cour de ce palais, était la sienne. Et là, paraît-il, sous un lit sculpté, sont restés par terre 2 petits souliers en soie rouge, brodés de papillons et de fleurs, qui n'ont pu appartenir qu'à elle. Je m'en reviens donc grand train dans la ville jaune. Je déjeune en hâte dans notre galerie vitrée, d'où les bibelots merveilleux ont déjà commencé, hélas, de s'en aller au nouveau garde-meuble, afin de permettre aux charpentiers de commencer leur œuvre d'appropriation. Et vite je m'en vais, à pied cette fois, avec mes 2 fidèles serviteurs, à la recherche de cette île, de ce palais et de ses petits souliers. Le soleil d'une heure est brûlant sur les sentiers desséchés, sur les vieux cèdres tout gris de poussière. À 2 kilomètres environ, au sud de notre résidence, nous trouvons l'île sans peine. Elle est dans une région où le lac se divise en différents petits bras, que traversent des ponts de marbre, que bordent des balustres de marbre enguirlandés de verdure. Et le palais est là, caché à demi dans les arbres, charmant et frêle, posé sur une terrasse de marbre blanc. Ses toits de faïence verte rehaussés d'or, ses murs à jour peints et dorés, brillent d'un éclat de choses précieuses et toutes neuves parmi le vert poussiéreux des cèdres centenaires. Il était une petite merveille de grâce et de mignardise, et il est adorable ainsi, dans cet abandon et ce silence. Par les portes ouvertes sur les marches si blanches qui y montent, de gentils débris de toutes sortes dévalent en cascade, cassons de porcelaines impériales, cassons de laques d'or, petits dragons de bronze tombés les pattes en l'air, lambeaux de soie rose et grappes de fleurs artificielles. Les barbares ont passé par là, mais lesquels ? Pas les Français, assurément, pas nos soldats, car jamais cette partie de la ville jaune ne leur a été confiée, jamais ils n'y sont venus. Dans les cours intérieures, d'où s'envole à notre approche une nuée de corbeaux, même des astres, le sol est jonché de pauvres objets élégants et délicats, un peu féminins, que l'on a détruits à plaisir. Et comme c'est un massacre tout récent, les étoffes légères, les fleurs en soie, les lambeaux de parure n'ont même pas perdu leur fraîcheur. Au fond de la deuxième cour, la deuxième chambre à gauche. Voici, il y reste un trône, des fauteuils, un grand lit très bas sculpté par la main des génies. Mais tout est saccagé. À coups de crosse, sans doute, on a brisé les glaces sans teint à travers lesquelles la souveraine pouvait contempler les miroitements du lac et la floraison rose des lotus, les ponts de marbre, les îlots, tout le paysage imaginé et réalisé pour ses yeux. Et on a mis en pièce une soie blanche très fine, tendue au mur, sur laquelle un artiste exquis avait jeté au pinceau, en teinture pâle, d'autres lotus, beaucoup plus grands que nature, mais languissants, courbés par quelques vents d'automne, et à demi effeuillés, semant leurs pétales. Sous ce lit, où je regarde tout de suite, traînent des amas de papiers manuscrits, des soies, des loques charmantes. Et mes deux serviteurs, qui fourragent là-dedans avec des bâtons, comme des chiffonniers, ont bientôt fait de ramener ce que je cherchais. L'un après l'autre, les deux petits souliers rouges, étonnants et comiques. Ce ne sont pas de ces ridicules souliers de poupée pour dames chinoises aux orteils contrefaits. L'impératrice, étant une princesse tartare, ne s'était point déformé les pieds, qu'elle semblait avoir du reste très petit par nature. Non, ce sont des mules brodées, de tournure très normale. Mais leur extravagance est seulement dans les talons, qui ont bien 30 centimètres de haut, qui prennent sous toute la semelle, qui s'élargissent par le bas comme des socles de statues sans quoi l'on tomberait, qui sont des blocs de cuir blanc tout à fait invraisemblables. Je ne me représentais pas que des souliers de femmes pouvaient faire tant de volume. Et comment les emporter à présent pour n'avoir pas l'air de pillard aux yeux des factionnaires ou des patrouilles que nous risquons de trouver en chemin? Haussmann imagine alors de les suspendre par des ficelles à la ceinture de Renaud, sous sa longue capote d'hiver aux pans dissimulateurs. Et c'est admirable comme escamotage. En marche même, car nous le faisons marcher pour être plus sûr, on ne devinerait rien. Je ne me sens d'ailleurs aucun remords, et je me figure que si elle pouvait, de si loin, voir la scène, l'encore belle impératrice, elle serait la première à en sourire. Sous le brûlant soleil, à l'ombre rare des vieux cèdres poudreux, retournons maintenant bon pas à mon palais de la Rotonde, où j'aurai à peine 2 heures lumineuses et tièdes dans mon kiosque vitré, pour travailler avant la tombée du froid et de la nuit. Je suis charmée, chaque fois que je remonte dans ce palais, de retrouver le silence sonore de ma haute esplanade qu'entoure le faîte crénelé des remparts. Esplanade artificielle, d'où l'on domine de partout des paysages artificiels, mais immenses et séculaires, et surtout interdits. Interdits depuis qu'ils existent et jamais vus jusqu'à ces jours par des yeux d'Européens. Tout est tellement chinois ici qu'on y est pour ainsi dire au cœur même du pays jaune, dans une Chine quintessentiée et exclusive. Ces jardins suspendus étaient un lieu de choix pour les rêveries ultra-chinoises d'une intransigeante impératrice qui rêva peut-être de refermer, comme dans les vieux temps, son pays au reste du monde, et qui voit aujourd'hui crouler à ses pieds son empire, vermoulu de toutes parts, autant que ses myriades de temples et ses myriades de dieux en bois doré. Leur magique ici est celle où l'énorme boule rouge, qu'est le soleil chinois des soirs d'automne, éclaire avant de mourir les toits de la ville violette. Et je sors chaque fois de mon kiosque à cette heure-là pour revoir encore ces aspects uniques au monde. Comparé à ceci, quelle laideur barbare offre la vue à vol d'oiseau d'une de nos villes d'Europe, amas quelconques de pignons difformes, de tuiles grossières, toits sales plantés de cheminées et de tuyaux de poêle, avec en plus l'horreur des fils électriques entrecroisés en réseau noir. En Chine, où l'on dédaigne assurément trop le pavage et la voirie, par contre, tout ce qui s'élève un peu haut dans l'air, domaine des esprits protecteurs au vol incessant, est toujours impeccable. Et cet immense repère des empereurs, aujourd'hui vide et mort, étale pour moi seul, en cet instant du soir, le luxe prodigieux de ces toitures d'émail. Malgré leur vieillesse, elles étincellent encore sous ce soleil rougissant, les pyramides de faïence jaune aux contours arqués avec une grâce qui nous est inconnue. À tous les angles de leur sommet, des ornements simulent de grandes ailes, puis en bas, vers les bords, viennent les rangées de monstres, dans ces mêmes poses qui se recopient de siècle en siècle, qui sont consacrées et immuables. Elles étincellent les pyramides de faïence jaune. Jusque dans le lointain, sur le bleu cendré du ciel où flotte l'éternelle poussière, on dirait une ville en or, et ensuite une ville de cuivre rouge à mesure que le soleil s'en va. Et le silence d'abord de toutes ces choses, et puis cet ensemble de croassements qui s'élève de partout à l'instant du coucher des corbeaux, et ce froid de mort qui soudainement tombe en suaire sur cette magnificence de l'émail dès que le soleil s'éteint. Ce soir, comme avant-hier, en quittant le palais de la Rotonde, nous passons sans nous arrêter devant notre palais du Nord pour aller chez Monseigneur Favier. Il me reçoit dans la même salle blanche où des valises, des sacs de voyage sont posés çà et là sur des meubles. L'évêque part demain pour l'Europe qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Il s'en va à Rome, auprès du pape, et puis en France, chercher de l'argent pour ses missions en détresse. Sa grande œuvre de 40 années est anéantie. 15 000 de ses chrétiens massacrés. Ses églises, ses chapelles, ses hôpitaux, ses écoles, tout est détruit, rasé jusqu'au sol, et on a violé ses cimetières. Cependant, il veut tout recommencer encore. Il ne désespère de rien. Et quand il vient me reconduire à travers son jardin déjà obscur, j'admire la belle énergie avec laquelle il me dit, montrant sa cathédrale trouée d'obus, qui est la seule restée debout et qui se profile tristement sur le ciel de nuit avec sa croix brisée. Toutes les églises qu'ils m'ont jetées par terre, je les reconstruirai plus grandes et plus hautes. Et je veux que chaque manœuvre de haine et de violence contre nous amène au contraire un pas en avant du christianisme dans leur pays. Ils me les démoliront peut-être encore, mes églises, qui sait? Eh bien, je les rebâtirai une fois de plus, et nous verrons, 2 ou 2 mois, qui se lassera le premier. Alors il m'apparaît très grand dans son opiniâtreté et sa foi, et je comprends que la Chine devra compter avec cet apôtre d'avant-garde.